Voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir Francesca, qui se présente, et Tony, qui est en ligne et qui prendra la parole juste après, pour le premier séminaire doctorant de l'année. Et puis, nous vous remercions d'être venus, que ce soit en ligne ou en présentiel. Un grand merci à vous tous. J'en profite rapidement pour vous dire qu'un compte Instagram, je fais la promo des séminaires doctorants, a été créé. Donc, c'est un compte Instagram dédié aux séminaires doctorants de l'Eribia, évidemment. Il a été créé il y a quelques jours et vous pouvez y suivre toute l'actualité. Normalement, vous avez reçu un mail. Donc, messieurs, n'hésitez pas à nous dire si vous ne l'avez pas reçu et on retransmettra. Donc, vous pouvez vous abonner pour rien rater. Et il y avait une petite pub faite aujourd'hui pour ce séminaire et pour ceux à venir. Et vous nous trouverez sous le nom donc de Eribia PhD. Et je ferme la parenthèse. Je passe donc à la présentation des deux doctorants du jour du laboratoire Eribia, Tony et Francesca, qui sont tous les deux en troisième année de thèse. C'est naturellement finalement qu'ils ont choisi de travailler ensemble autour du sujet des minorités sexuelles et de genre, de par les nombreux points communs de leurs travaux respectifs, puisque ils abordent tous les deux la presse à l'époque victorienne. Avec évidemment des périodes différentes, puisque Francesca nous propose une analyse allant de décembre 1889 à janvier 1890, là où Tony, lui, nous propose la période suivante, 1859-1926. D'un côté, Francesca nous invite à réfléchir à la question de la représentation du scandale de Cleveland Street à travers les illustrations du Illustrated Police News. Et de l'autre, nous avons Tony qui offre une réflexion autour de la Society for Promoting the Employment of Women à l'épreuve de l'insertion féminine dans l'Angleterre victorienne. Les minorités sexuelles mises en avant au cours de ces deux communications divergent, vous en doutez bien, en fonction des intervenants. Francesca traitera l'homosexualité masculine et Tony se penchera quant à lui sur les femmes éduquées des classes moyennes. Donc, je vais vous présenter rapidement Francesca. Le sujet qu'elle a choisi n'est pas anodin puisque son mémoire de master était publié sous le titre L'homosexualité masculine pendant les Naughty 90s. C'est bien ça. Il abordait déjà le sujet, à la fois passionnant et sensible, du scandale de Cleveland Street, tant et si bien que ce scandale est devenu son sujet de thèse. Après avoir échangé avec Francesca, elle m'a donc expliqué les raisons qui l'ont poussée et qui l'ont motivée à traiter ce sujet. La première, elle est assez évidente, puisque, il s'agit d'une réflexion qu'elle intégrera dans sa thèse. Et puis la seconde raison repose sur le fait que l'Illustrated Police News est le seul journal illustré, et c'est sur ce point qu'elle insiste, à avoir couvert le scandale de Cleveland Street, dont elle vous donnera les tenants et les aboutissants. C'est donc cette singularité qui lui vaut d'être au cœur de l'étude d'aujourd'hui. Et je laisse désormais le soin à Kimberly de vous présenter le travail de Tony. Et elle sera également en charge de la conclusion une fois que les communications de nos intervenants seront terminées. Voilà.
Merci Sarah. Alors, donc, Tony a fait le choix de nous présenter son travail sur la Society for Promoting the Employment of Women. Donc, ce sujet s'inscrit dans la continuité de ses travaux de recherche, donc travaillant sur les réseaux de presse féminin durant la période victorienne en Angleterre et leur rôle en tant que vecteur de l'autonomisation des femmes. Il lui a semblé donc intéressant d'en parler dans le cadre de ce séminaire. Et pour ce faire, il a voulu explorer donc l'aspect économique pour montrer en quoi il comptait offrir le pouvoir à ces femmes. Et j'ajoute qu'en mars 2021, il a pu communiquer lors d'un colloque en ligne organisé par Madame Baillet sur la presse victorienne. Et sa communication s'intéressait au journal des English Women's Journal, donc, qui est son sujet de thèse et qui était donc le journal de la Society for Promoting the Employment of Women. Et donc, c'est en lien direct avec ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Donc maintenant, on va laisser la parole à Francesca.
Très bien. Est-ce qu'il faut activer le micro? C'est bon, c'est fait?
Non,
Ah,
c'est bon,
non,
ça
c'est bon,
fonctionne.
très bien, parfait.
Il n'y a qu'à parler.
Donc, merci Sarah et Kimberly pour l'organisation du séminaire doctorant. Donc, comme vous avez dû le comprendre, donc, je travaille dans le cadre de ma thèse sur la représentation du scandale de Cleveland Street dans la presse londonienne. Mon corpus est composé de 8 publications, dont le Illustrated Police News, qui fait le sujet de l'objet plutôt de ma communication. Donc, je vais commencer par essayer de vous expliquer aussi brièvement que possible ce qu'est le scandale de Cleveland Street. Quand le diaporama sera activé. Non.
Je retente une fois.
Je vote tant pis.
C'est peut-être la flèche.
Oh, on s'était dit qu'il y avait. Ouais.
Oui, mais là.
On a un peu trop.
Donc avec la souris. D'accord. D'accord. Merci. En descendant. D'accord. Très bien. Donc, le scandale de Cleaver Street fait référence à, donc, au démantèlement d'un réseau de prostitution qui sévissait entre les locaux du General Post Office dans la City à Londres et une maison close au 19 Cleaver Street dans le quartier de Fitzrovia, dans le West End. Des coursiers donc, qui étaient chargés d'acheminer les télégrammes des locaux du General Post Office vers leur destinataire étaient recrutés dans les locaux du General Post Office pour se prostituer donc, dans cette maison close au 19 Cleaver Street. Et donc, la maison close était la propriété, elle était gérée par un personnage dénommé Charles Hammond, que vous voyez ici. Et donc tout commence à l'été 1889, quand donc les autorités découvrent l'existence de ce réseau par une enquête. Donc tout commence par une enquête interne au GPO pour vol. Des coursiers sont interrogés et un des officiers de police se rend compte que un des coursiers, donc Charles Winscope, détient une somme anormalement élevée d'argent. Et il finit par avouer, confesser qu'il a gagné cet argent en ayant des relations sexuelles avec des gentlemen, donc des aristocrates ou des bourgeois, dans la maison de Cleveland Street. Très rapidement, d'autres coursiers témoignent également et on découvre que Henry Newlove, un employé du General Post Office, était chargé du recrutement de ces coursiers. Newlove est arrêté. Et le même jour, Charles Hammond fuit le pays pour l'Europe et il ira par la suite aux États-Unis. Au mois d'août 1889, les coursiers identifient l'un des clients de la maison close, qui n'est autre que Lord Arthur Somerset. Ce nom ne vous dit peut-être rien du tout, mais en tout cas, il s'agit d'un écuyer du prince de Galles, donc le futur Édouard VII. Et son implication dans l'affaire lui donne une toute autre envergure puisque l'affaire s'approche dangereusement des sphères de la famille royale. Toujours est-il que Somerset est interrogé, mais n'est jamais poursuivi. En revanche, un autre de ses collaborateurs, George Veck, est arrêté à la mi-août 89. Le 27 août 1889 débute une procédure judiciaire envers Newlove, Veck et Hammond qui est lui jugé par contumace puisque il est déjà sorti du territoire britannique à ce moment-là. Au total, le scandale de Cleveland Street donne lieu à trois procédures judiciaires. La première, donc, c'est celle à l'encontre de Newlove, Veck et Hammond. Qui concerne le délit d'outrage à la pudeur. Donc, le délit d'outrage à la pudeur existe depuis 1885. En tout cas, en 89, il existe depuis 1885. Et il concerne tout acte, donc l'interdiction de tout acte d'outrage à la pudeur entre deux hommes, donc tout acte de rapprochement intime entre deux hommes, ou également la procuration de services sexuels d'hommes. La deuxième procédure judiciaire est en lien avec de la diffamation, puisqu'il s'agit d'un procès pour diffamation intenté par Henry Fitzroy, qui était donc comte de Houston, et qui, après avoir vu son nom publié dans un article du North London Press, cet article le qualifiant comme client régulier de la maison close, poursuit le rédacteur en chef du North London Press, qui n'est autre que Ernest Park, que vous voyez ici. Et donc la troisième et dernière procédure judiciaire concerne des poursuites pour entrave à l'exercice de la justice à l'encontre de Arthur Newton, qui était l'avocat de Lord Arthur Somerset, et deux autres de ses collaborateurs. qui ont tenté de soudoyer les coursiers. Ils voulaient les convaincre de partir vers les États-Unis ou vers l'Australie pour qu'ils ne témoignent pas. Donc, ce sont ces deux derniers procès qui ont été couverts par la presse, et notamment donc, par le Illustrated Police News, qui est donc le seul journal illustré à avoir traité l'affaire. Le Illustrated Police News a été fondé en 1864 par Mrs. Lee and Burpin, puis racheté par George Perkis, qui en 1889 en est toujours le rédacteur en chef. Il s'agit d'un hebdomadaire, pardon, qui a lié deux genres très populaires à la fin de l'ère victorienne, le journal illustré et les chroniques policières. Et il était vendu au prix de 1 penny, ce qui le rendait relativement abordable pour un lectorat de classe ouvrière lettrée. Un numéro du Illustrated Police News s'ouvrait toujours sur une couverture illustrée et ensuite venait 3 pages d'articles rédigés qui concernaient les illustrations en couverture. Linda Stratman a dédié deux ouvrages au Illustrated Police News et dans l'un d'eux, elle souligne que les illustrations de ce journal étaient sa force. Elle dit « Photographs my portrait, individuals and locations, but only the IPN could show a murder taking place, the arrest of the culprit, the trial and the execution. » Donc la force du Illustrated Police News était de montrer les délits à l'œuvre. Vous imaginez bien que le délit d'outrage à la pudeur ne pouvait pas être montré à l'œuvre dans les illustrations du Illustrated Police News, puisque le scandale de Cleveland Street n'était pas une affaire de...
Désolée, je prends la parole. On ne vous entend plus depuis un moment. Il n'y a plus de son. Désolée, Francesca.
Là, est-ce que vous nous entendez, c'est mieux?
Oui, c'est bon là. C'est rétabli. Merci beaucoup. Désolée, hein.
Ils ont envoyé les messages n'importe quoi. Merci à vous.
Là, c'est bon. Ouais, c'est bon du coup. Okay. Donc, je disais, l'objet de cette présentation est double. Comprendre comment un scandale innommable peut être montré en images et à la fois démontrer que l'exposition de l'affaire de Cleveland Street dans les illustrations de l'Illustrated Police News contribue à faire de cette affaire un scandale.
C'est bon, allez.
Donc je commencerai par analyser l'aspect sensationnel de l'affaire, pour ensuite passer à la question du tabou. Est-ce qu'on pouvait vraiment tout montrer? Est-ce qu'on devait tout montrer? Et enfin, je m'interrogerai sur ce qui faisait véritablement scandale dans ces illustrations et dans cette affaire. Donc là, les publications d'histoire à sensation faisaient partie intégrante de l'identité même du Illustrated Police News, qui aujourd'hui pourrait être considéré comme un tabloïd. Et donc, le Waterloo Directory of English Newspapers and Periodicals définit même l'IPN comme un journal sensationnaliste. Donc le journal, comme j'ai dit, a publié 5 illustrations dans 5 couvertures différentes, les voici. Et on remarque déjà que ces illustrations ne sont pas placées n'importe où, elles sont placées en haut, elles occupent une partie importante de la couverture. Et donc, si on prend en compte le sens de lecture, c'est la première chose que le lecteur voit quand il prend le journal. Et donc, ces cinq illustrations peuvent s'apparenter également à une série liées entre elles par un titre similaire, The West End Scandal, qui revient à chaque fois, mais également par un format similaire, puisque beaucoup de portraits sont publiés au cours de ces cinq couvertures, à l'intérieur de ces cinq couvertures. Dans Repetition or In Our Last, James Mossel établit un lien entre la sérialité de numéros d'une même publication et l'attraction du lectorat, et donc par conséquent l'aspect économique. Et donc j'aimerais affirmer ici que si le scandale de Cleveland Street devient si récurrent au mois de décembre et janvier, décembre 89 et janvier 90 dans l'Illustrated Police News, c'est parce que c'est une histoire qui fait vendre, tout simplement. Linda Stratman souligne de plus que le couplage d'une affaire croustillante et l'implication de personnes haut placées dans cette même affaire constituaient la recette parfaite d'un numéro à grand tirage. L'implication des aristocrates comme Lord Arthur Somerset, qui apparaît dans, qui apparaît donc dans deux des illustrations, vous voyez avec son haut de forme ici, et Lord Houston qui apparaît dans trois des illustrations. Donc leur implication dans l'affaire rendait pardon, cette histoire encore plus attractive. La quête du sensationnel était telle que certaines informations publiées pouvaient même s'écarter quelque peu de la réalité. On voit ici donc Hammond comme décrit comme emprisonné, alors que le 14 décembre 1889, Hammond avait déjà fui le pays depuis plusieurs mois. Ou bien encore, on peut voir ici la reproduction d'une carte de visite de la maison close qui pourtant avait été détruite par la personne qui l'a détenue. Dans un article intitulé « The Problem of Fake News », Dentith souligne que la publication de ce qu'il appelle les « Penny Dreadful Tales » était plutôt récurrente dans l'Illustrated Police News. Les histoires étaient dramatisées, romancées, pour offrir aux lecteurs ce qu'ils attendaient finalement. Et cette dramatisation, cette fictionnalisation peut se retrouver dans ces petites scénettes qui sont illustrées ici. Donc là, il s'agit de la version de Lord Houston. Et il a expliqué pourquoi il s'était rendu à la maison de Cleveland Street. Donc en fait, selon Houston, quelqu'un dans la rue lui a donné cette fameuse carte de visite sur laquelle était écrite « Post Plastic, Hammond, 19 Cleveland Street », donc pose plastique, c'est l'équivalent du striptease aujourd'hui, mais avec des femmes, donc c'est un spectacle de nu. Quelques semaines plus tard, il se dit qu'il pourrait rendre visite à cette maison close et voir ces poses plastiques avant de découvrir qu'il n'y avait pas de femmes au 19 Cleveland Street, et donc il finit par menacer la personne qui l'accueille « You scoundrel, I'll knock you down if you don't let me out. » Donc la fictionnalisation de ces faits divers s'inscrit dans un courant propre à la fin du 19e siècle qui s'appelle le New Journalism. Donc, c'est un courant journalistique qui alliait innovation technique, qui rendait possible l'impression de plus en plus courante d'images, donc innovation technique, des nouveaux styles d'écriture et de nouvelles approches journalistiques, comme le reportage de terrain. Les articles qui relevaient du New Journalism laissaient de côté les affaires politiques pour s'intéresser davantage aux hobbies ou aux faits divers, donc le sport, les crimes, les commérages et les affaires de mœurs. L'IPN s'inscrivait donc pleinement dans cette définition. Et pour Ed Cohen, qui écrit sur les journaux qui ont couvert l'affaire d'Oscar Wilde, la fictionnalisation des faits divers avait
Donc, pour but d'augmenter le nombre de tirages. Donc, il y avait une forme de quête du profit. Et elle avait également pour effet de créer un lien émotionnel avec le lecteur. Et donc, ce lien émotionnel est bien plus direct à travers l'image que par le texte. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Oui, okay. Donc, lien émotionnel donc, qui était plus direct par les images, d'autant plus si ces illustrations mettaient en scène des meurtres ou des catastrophes, comme ici on voit un homme se faire dévorer par des chats, une femme se suicider après avoir certainement tué son mari, ou un incendie détruisant un immeuble entier et tuant femme et enfant. Et en comparaison, l'illustration qui est dédiée au scandale de Cleveland Street semble très, très sage, très statique, comme si en fait elle n'avait pas vocation à montrer les choses, plutôt à les cacher. Ce qui m'emmène à ma deuxième partie. Peut-on vraiment tout montrer? Donc, comme je le disais, contrairement aux illustrations qui montraient des crimes et des catastrophes à l'œuvre, les illustrations dédiées au scandale de Cleveland Street ne pouvaient montrer le délit d'outrage à la pudeur à l'œuvre. Donc, on peut le voir ici dans donc, la couverture du 11 janvier 1890 et également celle du 18 janvier 1890. On a d'un côté des images en mouvement, en action, avec une composition presque désordonnée, des lignes diagonales, et de l'autre, des portraits. Très statique, avec des expressions de visage très neutres une composition symétrique. Ceci sous-entend certainement qu'il existe malgré tout une part de tabou, de non-dit, l'idée qu'on ne peut pas tout montrer. D'ailleurs, les poursuites judiciaires à l'encontre de Henry Newlove et George Weck, qui étaient les seuls qui concernaient le délit d'outrage à la pudeur, n'ont pas été traitées par le Illustrated Police News. Et elles ont d'ailleurs été très peu traitées par les autres journaux. Dans Nameless Offenses, Homosexual Desire in the 19th Century, Harry Cox émet l'idée que la responsabilité morale de la presse est engagée dès lors qu'elle aborde le sujet de l'homosexualité dans ses papiers. Yet, in making this discourse, the press faced the difficulty that to even mention the unnatural crime was seen as tantamount to corrupting public morals. Et donc, si l'on s'intéresse à l'étymologie du mot scandale, on peut établir un lien entre morale et scandale. Puisque le mot scandale dérive donc est originaire du grec scandalon, qui signifie donc piège placé sur le chemin, obstacle pour faire tomber, ce qui par la suite a donné en latin le terme scandalum, ce sur quoi on trébuche, que l'on retrouve notamment dans l'expression petra scandali, pierre d'achoppement. Mais c'est seulement à partir du IIIe siècle que le terme revêt un sens figuré qui désigne ce qui fait tomber dans le péché, occasion de péché, de la perte de la vraie foi. Le scandale est donc ce qui fait trébucher, ce qui fait sortir du droit chemin, que ce droit chemin soit la foi religieuse, ou bien la morale d'une société. L'Angleterre des années 1880-1890 est une société que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'homophobe, dans laquelle l'homosexualité est à la fois légalement répréhensible et moralement préjudiciable. Cela transparaît dans les illustrations du Illustrated Police News, notamment celle du 25 janvier 1890, la dernière couverture dédiée au scandale. Sur cette couverture, l'IPN finira par montrer le tabou, montrer l'immontrable à un travailleur du sexe masculin. Celui-ci est dénommé un vautour de Piccadilly, ce qui le déshumanise d'entrée de jeu. Il revêt à la fois des attributs féminins, comme une jupe ou un manchon, et masculin comme un chapeau ou les cheveux coupés courts. Son sourire en coin suggère une forme d'avidité et même de malveillance. Il regarde dans les yeux sa proie, entre guillemets, un homme de classe sociale élevée, comme le suggère le monocle, la canne ou même son costume. Cet homme ne semble pas réceptif à ses avances. On le voit, l'expression de son visage et son langage corporel. L'action ici, comme le suggère la présence de silhouettes en arrière-plan, ne se déroule pas dans une ruelle sombre, à l'abri des regards, mais bien en public, dans un des lieux les plus fréquentés de Londres, Piccadilly Circus. Matt Cook et Harry Cox reconnaissent tous deux que Piccadilly Circus était l'un des lieux les plus fréquentés par les travailleurs du sexe masculin ou des hommes à la recherche de relations homosexuelles. Cox liste d'autres lieux du West End, comme Hyde Park, Green Park, Covent Garden, Charing Cross ou The Strand. Et il se trouve que la maison close au 19 Lyman Street se situait également dans le West End. Celle-ci est représentée aussi dans la couverture du 25 janvier 1890. Elle est décrite comme « a den of infamy ». Donc ici, encore une fois, le terme « infamie » renvoie à l'idée, on revoit un champ lexical de la morale, hein, une idée du déshonneur, de vilainie même. Ici, on voit que la maison close est fréquentée par des gentilshommes qui sont accueillis certainement par Hammond ou l'un de ses collaborateurs. La rue est elle-même très fréquentée. On y voit le conducteur d'un fiacre, deux coursiers du GPO et un officier de police qui tourne le dos à la maison et semble ne pas voir ce qui s'y trame. En étudiant ces deux illustrations, je me suis posé la question de ce qui faisait vraiment scandale ici. Évidemment, l'homosexualité masculine est condamnée très clairement. Hein. On parle de vautour de Piccadilly, on parle de den of infamy. Mais je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas autre chose. Dans les deux cas, donc, j'aimerais affirmer que dans les deux cas, le délit d'outrage à la pudeur ou même l'homosexualité masculine ne semble être qu'un prétexte pour dénoncer un autre scandale, celui d'une autorité policière et d'une justice dysfonctionnelle qui laisse les travailleurs du sexe exercer librement dans les lieux les plus fréquentés de Londres et des notables entrer dans une maison close qui exploite sexuellement les jeunes coursiers. Si on regarde dans la deuxième illustration, les coursiers sont représentés comme de petite taille. Les coursiers à l'époque avaient, les coursiers en tout cas impliqués dans le scandale de Cleveland Street avaient entre 15 et 18 ans. Entre 15 et 18 ans, on ne fait pas cette taille-là. Donc on a l'impression que ce sont des jeunes enfants. Dans Sodom and the Thames, Maurice Kaplan souligne que les coursiers, dans la presse, étaient systématiquement représentés comme des victimes. Et ce, même si eux-mêmes avaient avoué lors d'interrogatoires avoir eu des relations sexuelles non rémunérées avec d'autres employés du GPO. Une justice dysfonctionnelle, donc, qui est... ah oui, pardon. Donc là, on a encore d'autres représentations des coursiers. On les voit ici dans leur uniforme, regardant vers la droite, ils se tiennent droit. Ils ont des traits, des beaux traits. Ils sont blonds. Ici, ils sont bien coiffés, en costume. Encore une fois, ils se tiennent droit. Donc voilà, ils sont représentés comme respectables, ces coursiers. Une justice dysfonctionnelle, donc, exemplifiée ici par l'emprisonnement de Ernest Park. Donc, Ernest Park était le journaliste qui avait dénoncé publiquement Lord Houston comme étant l'un des clients de la maison close. Lord Houston a écopé de 12 mois d'emprisonnement pour diffamation. Et on le voit ici. C'est lui qui se retrouve en prison. C'est le journaliste hétérosexuel, on le voit hein, avec sa femme ici, qui se retrouve en prison. Ce ne sont pas les clients de la maison close, ce ne sont pas les travailleurs du sexe, c'est un homme de classe moyenne qui essayait de faire son travail correctement. Finalement. Et donc j'aimerais terminer mon exposé en me demandant pourquoi faire scandale. Quels sont les effets du scandale? Et pour cela, j'aimerais invoquer une définition anthropologique du scandale, celle de Max Gluckman, qui identifie trois fonctions du scandale et des commérages. Le premier est le maintien des valeurs morales d'un groupe en marquant d'opprobre l'individu qui est objet du scandale ou de commérage. La deuxième fonction est la définition même du groupe social, qui en fait partie et surtout qui en est exclu, puisque lorsqu'on prend part au commérage ou au scandale, on fait partie du groupe social. Et enfin, la troisième et dernière fonction est celle sur laquelle j'aimerais m'attarder, est la sélection de dirigeants, puisque en jugeant l'honneur de telle ou telle personne, on est capable d'identifier qui est digne d'être notre dirigeant. Et donc, en ayant leur portrait publié dans l'IPN, Lord Arthur Somerset et Lord Houston, qui sont des aristocrates, qui font partie des classes les plus élevées, de la classe la plus élevée de la société victorienne, eh bien, ces deux hommes deviennent objets du scandale, et avec eux, donc, toute l'aristocratie décadente est pointée du doigt. Et ce, même si l'IPN ne formule aucune accusation explicite. Et en dépeignant l'officier de police tournant le dos à la maison close, l'IPN laisse entendre qu'il existe une justice à deux vitesses, favorable à ces aristocrates pervertis. Et cette idée est explicitement formulée dans l'un des articles du IPN, celui du 7 décembre 1889, qui cite le magazine Truth. Donc l'auteur ici n'est pas un rédacteur, n'est pas un écrivain du Illustrated Police News, mais du magazine Truth. La citation concerne Lord Arthur Somerset, qui a fui le pays. The nobleman fled, and when he had got well out of British jurisdiction, a warrant was issued against him, and he was gazetted out of the army. If this is not one law for the obscure and another for this highly placed, for those highly placed, what is? Linda Stratman définit l'Illustrated Police News comme socially conscious and radical from the start. Et j'aimerais la rejoindre sur ce point, puisque en dénonçant, même de façon détournée, les comportements délictueux des aristocrates, l'Illustrated Police News prend position et n'engage pas seulement sa responsabilité morale, mais également sa responsabilité politique. Donc, pour conclure, c'est donc à travers l'exposition répétée et romancée que l'affaire de Cleveland Street devient scandale. Et donc l'exposition même détournée du scandale engage la responsabilité morale du journal, qui prend le risque d'exposer non seulement des membres de l'aristocratie, mais également, chose qui était beaucoup plus rare à la fin du XIXe siècle, des travailleurs du sexe masculin ou des maisons closes. L'exposition de l'affaire devient alors le prétexte d'exposer un autre scandale, plus global, celui d'une justice à deux vitesses qui serait favorable aux plus riches et défavorable aux plus pauvres. Et donc, en pointant du doigt ces aristocrates dépravés, l'IPN fait de l'objet de commérage, l'objet de scandale, et par là même les exclut symboliquement des classes dirigeantes. J'espère avoir démontré dans cette présentation que le scandale de Cleveland Street est finalement bien plus qu'une affaire de mœurs, et que l'Illustrated Police News est bien plus qu'un tabloïd. Merci de m'avoir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francesca, pour cette brillante présentation. Très, très intéressante. Donc, nous reviendrons sur les questions que vous pouvez avoir après, puisque nous allons passer à une communication de Tony.
Je peux arrêter ton partage.
Oui.
On va juste mettre en place. Tony, ouais. Tu nous entends bien aussi?
Ah, ça va, je pense que le son est bon. Je vous entends bien.
Ouais, super. Hop, la place. C'est à toi. Ouais, super.
Alors.
On voit bien l'écran.
Voilà, je vous remercie, Sarah. Vous m'entendez?
Oui, 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 on voyait bien l'écran et le partage fonctionne très bien. Merci. Tu peux y aller.
Ah. Alors, je vous remercie, Sarah et Kimberley, pour l'organisation de ce séminaire. Avant de commencer ma présentation, je voudrais préciser que la période de mon travail va de 1858 à 1864. D'ailleurs, je pense que c'est Sarah qui disait qu'elle va de 1859 à 1926. Alors, en introduction, je tiens à préciser qu'en 1859, Jessie Emilia Boucherette, Adélaïde Anne Proctor et Barbara Bodichon, toutes contributrices de l'English Woman's Journal, dont nous avons ici le sommaire du volume 1 et les thématiques abordées dans ce magazine durant la première année de sa diffusion. Donc, ces femmes créent la Society for Promoting the Employment of Women, qui en abrégé est simplement SPEW. Cette création découle de leur volonté de professionnaliser la population féminine éduquée des classes moyennes. Face au constat du silence, voire de l'absence d'opportunités d'emploi, malgré les dénonciations et les propositions émanant du magazine, ces femmes militent pour la mise en pratique des idées de leur organe de presse. Elles encouragent ainsi les femmes à devenir les actrices principales du changement concret de leur situation sociopolitique délicate. Par le biais de la SPEW, elles parviennent à créer et à multiplier les opportunités d'emploi pour leur communauté issue des lectrices de l'English Woman's Journal. Il est essentiel de souligner que ces femmes ont profité d'un climat politique favorable, marqué par la montée des pressions libérales et des revendications sociales au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Ce contexte politique a favorisé la diffusion de leurs idées et la concrétisation de leurs actions. Le magazine à partir duquel ce réseau s'est développé est devenu la voix des femmes qui n'avaient pas la parole dans leur quête d'autonomisation. La réalisation de leur projet passait essentiellement par ce type d'organisation, ce qui impliquait une répartition des tâches entre les contributrices. C'est dans cette optique que Jessie Boucherette, Adélaïde Anne Proctor et Barbara Bodichon ont collaboré de manière synergique pour favoriser l'employabilité des femmes, formant ainsi un comité économique. Dans la même veine, d'autres journalistes et écrivains tels qu'Emily Davis et Elizabeth Garrett Anderson ont revendiqué un système éducatif plus équitable, y incluant l'accès des femmes des classes moyennes aux études universitaires. De plus, d'autres militantes comme Emily Faithfull ont créé sous l'égide de l'English Woman's Journal d'autres structures visant à rassembler davantage de femmes. C'est notamment le cas de la Victoria Press, qui est un forum matériel ayant servi de tremplin pour l'emploi des femmes dans le secteur de l'imprimerie. Il convient de noter que la première organisation a également pris en charge l'impression et la diffusion du périodique The English Woman's Journal entre 1861 et 1864. L'organisation de l'English Woman's Journal en forum interne, ainsi que son affiliation à des associations externes comme l'Association nationale pour la promotion des sciences sociales, souligne son attachement et son intérêt pour une revendication structurée en réseau. Et pour ce faire, nous avons ici un exemple des réseaux principaux que l'on peut retrouver dans le magazine, et notamment un réseau familial, un réseau amical. Nous avons également un réseau professionnel dans ce magazine. Nous avons un réseau économique et matériel, justement, qui fait l'objet de cette présentation, et un réseau idéologique et un réseau politique. Ainsi, le concept de réseau revêt une importance fondamentale dans le militantisme féminin de la seconde moitié du 19e siècle en Angleterre. Il englobe les notions de communauté, d'association, de groupe, de cercle, voire de famille. En raison de ses caractéristiques particulières, il constitue un objet d'étude dans plusieurs disciplines, notamment l'informatique, nous avons la technologie, la philosophie, la sociologie et l'histoire. Selon l'Oxford English Dictionary, les premières occurrences de ce concept remontent au XVIe siècle. Elles se réfèrent initialement à un travail, en particulier un travail manufacturé, dans lequel les fils se croisent ou s'entrelacent à la manière d'un filet. Par la suite, il a été envisagé comme un système de choses immatérielles interconnectées, un système d'ordinateurs interconnectés, souvent attributifs, ou encore un groupe de personnes interconnectées ayant des relations particulières. Dans le cadre de la réflexion que je propose sur la Society for Promoting the Employment of Women et Jessie Boucherette, sa principale fondatrice, la définition du réseau qui s'inscrit, la définition du réseau qui s'inscrit dans ce travail s'inscrit dans la lignée de celle élaborée par Nathan Hensley. Selon cette définition, le réseau est une chaîne d'interactions visibles ou matérielles entre entités humaines et non humaines. Ce choix s'explique par le fait que la SPEW ne favorisait pas seulement des interactions fructueuses entre ses membres conçus comme des entités humaines. Elle s'est également affiliée à d'autres structures comme l'Association nationale pour la promotion des sciences sociales. Cette autre forme de connexion correspond au second, ou du moins au deuxième aspect de la définition portant sur les interactions entre entités non humaines. L'intérêt de cette présentation consiste donc à démontrer comment les activités de ce réseau ont contribué à l'émancipation de la population féminine éduquée conformément aux objectifs de l'English Women's Journal. Cette présentation se divise donc en deux parties essentielles, à savoir l'exploration de l'œuvre et de la personne de l'actrice Jessie Boucherette, ainsi que la place de son réseau économique dans le processus d'intégration sociale des femmes. En première partie de ce travail, je propose d'aborder l'origine sociale de Jessie Boucherette. Née de l'union de Louisa Pigou et d'Escorte Boucherette, tous deux issus de la haute bourgeoisie, Jessie Boucherette, nous avons ici le portrait. Jessie Boucherette a bénéficié de conditions de vie et d'apprentissage exceptionnelles. Elle a été inscrite à l'école de Stratford-upon-Avon, où elle a suivi des cours au même titre que les élèves de sexe masculin. Ce parcours scolaire a renforcé sa détermination dans une société souvent hostile à l'épanouissement intellectuel des femmes. Comme le souligne Linda Walker, Jessie Boucherette fait partie des anciennes élèves de cet établissement qui se sont distinguées par leur éducation et leurs compétences. Les enseignements reçus à Stratford-upon-Avon ont façonné les qualités nécessaires à son futur engagement dans le journalisme. Pour rester en accord avec sa haute origine sociale, son orientation politique et ses convictions idéologiques liées à son identité féminine, Jessie Boucherette se présente ou se définit comme une réformatrice. Son statut est clairement perceptible à travers son engagement en faveur de l'émancipation des femmes. Son combat principal visait donc à promouvoir leur indépendance économique. Pour ce faire, elle utilise la presse et son réseau de contacts acquis à Langham Place. L'une de ses premières missions consistait à abolir ce que l'on pourrait appeler la prescription culturelle et à s'opposer aux contraintes légales qui entravaient les femmes. Comme l'explique une fois de plus Linda Walker, la maîtrise par Jessie Boucherette du fonctionnement de la société était essentielle pour sa tentative de la rendre plus ouverte aux besoins et aux droits des femmes. Cette action a constitué la base de toutes les autres réformes qu'elle entreprendra par la suite. En s'attaquant aux obstacles culturels et légaux, Jessie Boucherette a dénoncé la domination exercée sur leur comportement et les habitudes des femmes. Cette domination visait à la fois à définir leurs activités et à restreindre leur expression. En ce qui concerne la trajectoire politique de Jessie Boucherette, la campagne menée par cette dernière découle de sa profonde croyance en des notions telles que la liberté, l'émancipation et l'indépendance, en particulier sur le plan économique. Son engagement tenace en faveur de la défense de l'identité féminine l'a conduit à s'intéresser de près à la situation sociopolitique et économique de cette frange de la population. Selon le Dictionary of National Biography, c'est sa lecture de l'article d'Harriet Martineau intitulé On Female Industry, publié dans l'Edinburgh Review en 1859, qui a suscité cet intérêt. Au cours de cette même année, elle découvre l'existence de l'English Woman's Journal à travers un numéro de ce magazine qu'elle consulte chez l'une de ses amies. S'identifiant donc aux valeurs promues par cette publication, elle décide immédiatement d'y adhérer et n'hésite pas à solliciter une rencontre avec l'équipe éditoriale. Dans sa démarche d'adhésion, elle se rend donc finalement à l'adresse physique de l'English Woman's Journal au 19 Langham Place, où elle rencontre les fondatrices Barbara Bodichon et Bessel van der Parks, donc les principales fondatrices de ce réseau. Cette visite marque un jalon crucial dans son parcours politique. En effet, c'est lors de son séjour au siège de cette communauté qu'elle fait la connaissance d'autres femmes des classes moyennes partageant les mêmes aspirations sociales et politiques qu'elle. S'identifiant à celle-ci, Jessie Emilia Boucheret les considère avant tout comme un réseau d'amis et de partenaires de lutte. Avec elle, elle partage des expériences, elle apprend et contribue à créer une identité commune. Par la suite, il devient essentiel de développer la confiance et la proximité avec ses nouvelles collaboratrices. Une fois intégrée, Jessie Emilia Boucheret dispose immédiatement des ressources nécessaires pour promouvoir l'employabilité des femmes, notamment un soutien financier à travers des dons et des cotisations. Ces ressources lui permettent de mener des actions concrètes, comme l'établissement d'un registre de l'emploi et la création de deux écoles pour femmes, à savoir une école de copie de loi et une école de formation pour comptables, commis et caissières. Le registre de l'emploi vise à identifier et à donner la priorité aux membres de l'English Women's Journal, tandis que les écoles de formation sont accessibles à toutes les femmes de classe moyenne, les préparant ainsi au métier de l'industrie. Parmi les réalisations politiques marquantes de Jessie Boucheret, la création du réseau The Society for Promoting the Employment of Women se distingue comme son projet politique le plus abouti. En conséquence, il convient d'examiner ce réseau comme un instrument de pouvoir dont le fonctionnement doit être exploré avant de mettre en lumière ses résultats. Pour ce faire, j'aborde la deuxième partie de cette présentation qui consiste à montrer en quoi ce réseau peut être considéré comme un instrument de pouvoir. En ce qui concerne son fonctionnement, la Society for Promoting the Employment of Women représente l'une des structures les plus significatives du militantisme féminin au cours de la seconde moitié du 19e siècle en Angleterre. Elle a joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'influence du réseau des femmes écrivains et journalistes. Alors que le magazine The English Woman's Journal contribuait à sensibiliser l'opinion sur la question de l'emploi des femmes, la Society for Promoting the Employment of Women renforçait la solidarité féminine en finançant la formation technique et en ouvrant de nouvelles opportunités professionnelles à ses membres. Notamment pour les femmes de Langham Place, ce réseau fonctionnait comme un moyen direct et immédiat par lequel le plus grand nombre de femmes pouvaient aider le plus petit nombre à surmonter les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. La création et la coordination de la SPEW ont été confiées à Jessie Boucheret par les fondatrices du cercle de Langham Place, notamment Barbara Bodichon et Bessie van der Parks. Bien que ces dernières reconnaissaient en elles les compétences nécessaires à la gestion de cette activité, cette décision n'a pas fait l'unanimité parmi les membres du réseau journalistique. Le silence observé par certains membres, bien qu'elles ne soient pas clairement identifiées, témoigne de leur désaccord. Cependant, malgré cette opposition initiale, d'autres membres, notamment Adélaïde Anne-Porter, ont ra rapidement rejoint Jessie Bocheret pour soutenir la création et le fonctionnement de cette organisation économique. En outre, d'autres figures notables telles que Barbara Bodichon, Emily Faithfull et Emily Davis ont contribué à la conception et au fonctionnement de la SPIW. Pour faciliter l'organisation de cette structure, Jessie Boucherette et Adélaïde Anne Porter ont formé le tout premier comité directeur de ce réseau. Cela a permis de mettre en place une structure de gestion au sein de la SPIW, assurant une coordination efficace. La création de sous-comités dédiés à des aspects spécifiques de l'organisation a également été envisagée. Cependant, l'opposition et la réticence de certaines contributrices de l'English Women's Journal ont conduit à des discussions sur l'élargissement de la souscription à la SPIW au-delà de Langham Place. L'extension de la souscription à cette structure a attiré l'adhésion de personnalités masculines de renom, renforçant ainsi la visibilité et la légitimité de ce réseau. Lord Shaftesbury a notamment été nommé premier président de l'organisation. D'autres hommes, dont George Hastings, John Stuart Mill, John Parris, Robert Slaney et le révérend Mackenzie, sont devenus des membres actifs de ce réseau. L'affiliation à l'Association nationale pour la promotion des sciences sociales en 1861 a ouvert de nouvelles perspectives pour la SPIW. Cette alliance a permis la création d'un comité général composé de Mrs. Baines, Mrs. Bain, Mrs. Boucheret, de Lady Elizabeth Cust, Miss Emily Faithfull, Sir Walter James, Mrs. Locke King, John Parris et Miss Proctor. Ce comité général était chargé de coordonner les activités de la SPIW et de mettre en place d'autres sous-comités. Le règlement intérieur de cette structure économique a établi des procédures de gestion et de rapport. L'article 7, donc si nous avons l'ensemble des règles de cette structure, notamment l'article 7 de ce règlement stipule que le comité général peut nommer un sous-comité de gestion et d'autres sous-comités en fonction des besoins de la société. L'article 6 précise que le comité général doit rendre compte au conseil de l'Association nationale pour la promotion des sciences sociales une fois par trimestre. Ensuite, les finances étaient essentielles pour garantir la continuité des activités de la SPIW. Une partie des fonds nécessaires a été collectée par des contributions mensuelles et annuelles de ses membres, tandis que d'autres ont été obtenues par le biais des dons. Ces ressources ont été cruciales pour réaliser des actions concrètes visant à promouvoir l'employabilité des femmes. L'article 2 de ce règlement intérieur met d'ailleurs un accent sur le renflouement de la caisse de la SPIW en conditionnant l'adhésion à vie par le versement d'une somme forfaitaire de 5 pounds ou encore par une souscription annuelle de 10 shillings. Nonobstant ces montants définis, la SPIW notifie que des sommes plus importantes seraient bien sûr reçues avec plaisir. En 1860, par exemple, des fonds nécessaires ont été collectés par des souscriptions mensuelles et annuelles des membres, ainsi que par des dons des donateurs tels que Miss Harry, Miss William, Sir William Armstrong et Miss Clendenning, qui ont respectivement offert 5 pounds pour l'émigration, 10 et 5 pounds supplémentaires, sans préciser l'objectif pour lequel cet argent devrait être dépensé. Donc ici, nous avons en fait un bilan financier des années 60, 1960 et 1961, toutes les entrées financières et les raisons pour lesquelles les sommes allouées étaient effectivement offertes à cette structure. Aussi, Mrs. Ashby, Mrs. Austin, Miss Almont, Miss Ebach, Mrs. Campbell et Miss Cobb ont payé une souscription annuelle de 10 shillings. Cette collecte de fonds a contribué à la réalisation des missions de la SPEW et au soutien de l'insertion politique de ces femmes. Ce qui m'amène à aborder la seconde partie, le second sous-point de cette partie, qui est les résultats de l'activité de cette structure économique. Deux passages tirés du quatrième volume de l'Englishwoman's Journal cristallisent la tension de cette structure économique sur la nécessité de réformes relatives à l'emploi et à la formation féminine. L'autrice anonyme déplore le traitement infligé aux femmes en affirmant « Nous en avons marre que l'on dise de nous que les femmes ne peuvent pas faire ceci, les femmes ne doivent pas faire cela, les femmes ne sont pas assez fortes pour ceci ou encore cela, alors que nous savons et voyons à chaque heure de notre vie que ces arguments sont une imposture, que certains des travaux les plus difficiles dans ce monde sont effectués par des femmes. » Cette critique permet non seulement de dénoncer les préjugés concernant les femmes des classes moyennes, parmi lesquelles celle de l'Englishwoman's Journal, mais aussi et de surcroît de réclamer l'emploi comme un facteur de leur insertion sociale. C'est de ce fait, en sa qualité de membre de la communauté de Langham Place, que cette écrivaine anonyme dénonce l'absence d'indépendance économique en écrivant une fois de plus « Ce que nous demandons à corps et à cri, c'est un emploi, un champ de possibilités parmi lesquels les encouragements à travailler et un salaire équitable pour une journée de travail équitable. Pour l'instant, ce que nous ressentons, c'est une injustice, celle des hommes qui s'arrogent tous les emplois et les professions profitables, même ceux qui sont inadaptés à la virilité vigoureuse dont ils se vantent. C'est ainsi qu'ils usurpent le travail des femmes et les poussent au plus bas de la misère et de la souffrance. Cette critique pousse la Society for Promoting the Employment of Women à démontrer un engagement marqué envers la formation professionnelle et technique des femmes, qu'elle considérait comme un élément clé pour remédier au manque d'opportunités professionnelles. Le comité exécutif de ce réseau a donc pris des mesures concrètes pour soutenir la formation des femmes. En l'occurrence, il a été question de créer des pensionnats connus sous le nom de The Boarding Houses pour ces jeunes femmes. Ce comité a également identifié des établissements favorables à leur apprentissage, tels que The College for Working Women et The College for Men and Women. Le premier établissement était exclusivement réservé aux filles de plus de 15 ans, tandis que le second recevait à la fois des femmes et des hommes, en particulier celles qui répondaient aux critères d'éligibilité et souhaitaient suivre des enseignements du soir. La SPEW a également répertorié d'autres institutions telles que The Artist Home, The Student's Home et le Governor's Home, susceptibles de dispenser une formation technique. La promotion des formations professionnelles et techniques par la structure économique de Langham Place était motivée par la conviction que ces compétences étaient essentielles pour accéder à des emplois de haute qualité. À cette époque, de nombreux métiers étaient inaccessibles aux femmes, à moins qu'elles ne possèdent une expertise particulière. Par conséquent, la SPEW a travaillé activement pour donner aux femmes les moyens d'acquérir ces compétences et de se professionnaliser. L'impact de la SPEW sur la population féminine et la société en général était significatif, comme en témoigne le nombre croissant de femmes intéressées par les formations proposées, ainsi que le nombre croissant de familles favorables à la scolarisation de leurs filles. Environ 1740 filles et femmes ont bénéficié de l'admission dans des pensionnats de prêts d'argent pour financer leur apprentissage ou des deux services à la fois. Ces chiffres attestent l'efficacité des actions de la SPEW qui ont eu un impact concret sur la vie des femmes et sur la société dans son ensemble. La création de la Victoria Press par Emily Faithfull en 1860 est un autre résultat tangible des activités de cette structure économique. Cette branche du réseau économique de l'Englishwoman's Journal a ouvert des opportunités de formation et d'emploi dans l'industrie de l'imprimerie, un secteur traditionnellement réservé aux hommes. Les femmes formées par la Victoria Press ont été impliquées dans l'impression d'anthologie. Et ici, nous avons un exemple de ces femmes travaillant comme compositrices à la Victoria Press. Elles ont également imprimé des tracts et des périodiques féministes, y compris le mensuel de English Women's Journal. Ce projet a non seulement contribué à l'autonomisation des femmes en leur offrant de nouvelles compétences, mais il a également soutenu la diffusion de la pensée féminine, voire féministe, à travers la presse imprimée. Ce qui m'amène du coup à la conclusion. En conclusion, les réseaux associés à l'English Women's Journal, y compris la Society for Promoting the Employment of Women, ne cherchent pas à renverser les hommes, ni à usurper leur place, mais à établir une justice sociale équitable pour tous. Leurs campagnes et missions diverses visent à renforcer la lutte pour l'égalité. De plus, ces réseaux ne servent pas seulement à rassembler les femmes engagées, mais également à encourager le développement de leurs capacités naturelles pour promouvoir leur cause. L'histoire de Jessie Boucherette illustre parfaitement l'impact de l'engagement individuel sur l'efficacité de ce réseau. Par ailleurs, deux raisons principales justifient l'admission de certains hommes dans le réseau de l'English Women's Journal. Tout d'abord, cela découle de l'hostilité de certaines collaboratrices à l'égard de la gestionnaire du réseau économique. Ensuite, il s'agit de démontrer leur capacité à rallier les hommes politiques à la cause des femmes. Le recours à ces collaborateurs masculins renommés vise à accorder une visibilité et une légitimité accrue à ces institutions. En somme, la présence masculine au sein de ces réseaux féminins agit comme un bouclier contre le rejet et l'indifférence de la société. En d'autres termes, l'intégration de ces personnalités politiques reconnues constitue une stratégie de lutte et de légitimation de ces réseaux. Je vous remercie pour votre attention et je reste forcément ouvert à l'échange.
Vous entend. Oui, normalement, c'est bon. Alors, merci beaucoup, Tony, pour cette présentation plus qu'intéressante. Et nous vous remercions tous les deux, donc Francesca et Tony, d'avoir accepté de présenter vos travaux aujourd'hui pour ce premier séminaire de l'année. Et donc, vous avez soulevé des sujets donc, importants de l'ère victorienne, sans doute, j'imagine, susciter des questions parmi l'auditoire, que ce soit ici en présentiel ou en ligne. Donc, je propose que nous passions directement aux questions. Et donc, Francesca et Tony, vous répondrez avec plaisir, j'imagine. Je ne sais pas comment procéder entre silence et ligne.
Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas et désactivez le micro, enfin, activez le micro. Madame Baillet, oui, on voit que vous avez levé la main, allez-y.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux présentations qui étaient vraiment extrêmement intéressantes. J'ai noté beaucoup de choses. Donc, j'ai des questions pour Francesca et des questions pour Tony. Donc, je ne sais pas si je commence par Francesca, je commence dans l'ordre. Alors Francesca, je voulais vous demander, je crois qu'on en a déjà parlé, mais on n'est pas revenu dessus. Qui faisait ces illustrations? Qui dessinait pour The Illustrated London News?
Bah, c'est une bonne question, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai cherché là, vous m'avez dit de chercher, et j'ai vraiment pas trouvé, il n'y a pas de signature. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, je vous entends.
Voilà, il n'y a pas de signature. Dans le Waterloo Directory, rien n'apparaît, aucun nom n'apparaît. Je vais essayer de continuer de chercher, mais pour l'instant...
Voilà, tout à fait. Alors après, effectivement, c'est vrai que tous les journaux ne mettent pas forcément en avant leurs illustrateurs. Ça vaudrait le coup de voir, en fait, s'il existe des archives quelque part pour ce journal. Vous avez déjà...
Hormis sur la British Library, non, je ne crois pas.
Linda Strutman a évoqué l'existence d'un illustrateur qui signait, mais c'est antérieur à la période concernée. Donc
Oui.
ça, j'ai pas d'autres noms en fait.
OK. Bon, bah, on pourrait tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est une piste qui est intéressante à explorer. Je pense que d'une manière ou d'une autre, alors effectivement, en fonction des journaux, vous n'aurez pas forcément d'archives. Tous les journaux n'ont pas forcément d'archives très, très fournies. Mais en tout cas, ça, c'est une piste très intéressante. D'autant plus que, par exemple, sur les couvertures que vous avez montrées, j'ai vu que, par exemple, pour Lord Houston, mais c'est vrai aussi pour d'autres, c'est systématiquement la même image qui est répétée. C'est-à-dire, ce n'est pas différents dessins, différentes représentations. C'est la même image qui est répétée. Donc, je pense qu'il doit y avoir en fait probablement une circulation d'images qu'il est intéressant de peut-être de retracer pour vous. Et sinon, j'ai une deuxième petite question à vous poser. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé votre présentation, Francesca. Il y a beaucoup de points forts, beaucoup de choses qui sont extrêmement solides. J'ai bien aimé votre conclusion, le fait d'élargir, de dépasser finalement le questionnement autour du scandale lui-même, de l'homosexualité, des pratiques, etc., et d'ouvrir sur le contexte politique. Alors, je pense effectivement que tout ça, ça se situe dans un contexte. The Illustrated London News s'adresse à un lectorat qui est plutôt populaire. Donc, avec une façon, et vous l'avez très très bien dit, d'objectifier, de rendre en fait l'aristocratie britannique en tant qu'objet du scandale. Donc, ça c'est intéressant, et particulièrement à un moment où on élargit le droit de vote, puisque depuis 84-85, avec le Third Reform Act, on a véritablement un accès beaucoup plus large au vote. Donc ça, c'est, je pense que c'est une piste que vous pouvez, je pense plus à la suite de votre travail de thèse, bien sûr, hein, pas simplement dans le cadre de cette présentation qui était vraiment extrêmement intéressante, mais effectivement, je pense que c'est un domaine qui mérite peut-être encore un travail. Vous voyez, ce lien que vous avez aujourd'hui évoqué, que vous avez amené avec beaucoup de compétences sur effectivement l'objet du scandale, la responsabilité morale de l'aristocratie, la responsabilité du journal lui-même, le lectorat auquel il s'adresse. Donc voilà, tout ça c'est absolument intéressant. Et dernière petite chose, parce que là je finalement c'était pas vraiment des questions, c'est vraiment la caricature en fait de la personne qui prend la parole et qui question. Sur la petite taille à la fin des coursiers, avez-vous une autre hypothèse que le fait qu'on les représente comme des enfants?
Non, ça, non. Est-ce que vous en
Alors,
avez?
moi j'en ai une. J'en ai une parce que, en fait, si vous voulez, il est dans les représentations visuelles, dans les journaux victoriens. On a effectivement, le fait est, c'est que les classes populaires sont moins bien nourries. Et le fait est que les gens sont moins grands. Et même s'ils ont 15-18 ans, alors effectivement, on peut choisir de les représenter comme des enfants pour accentuer le scandale lui-même. Mais il y a vraiment dans l'ensemble, dans beaucoup d'organes de presse victoriens, dans les représentations visuelles, un renvoi à des stéréotypes qui sont en partie fondés sur une réalité. Le fait est que les aristocrates étaient plus grands parce qu'ils étaient mieux nourris et que, effectivement, les gens issus des classes populaires étaient plus petits. Je vous donnerai une référence avec Arnold White qui parle effectivement des différentes catégories sociales à Londres à la fin du siècle. Voilà, j'ai fini pour Francesca. Je suis désolée, j'ai peut-être parlé un peu longtemps. Je ne sais pas si vous avez des réactions, Francesca.
Merci de m'avoir
Voilà, mais merci à vous parce que c'est, enfin, j'ai trouvé que c'était une présentation vraiment extrêmement intéressante, bien amenée, bien orchestrée. Mesdames les responsables du séminaire des doctorants, est-ce que je pose mes questions à Tony ou est-ce que Je laisse la salle intervenir pour d'autres questions à Francesca. Je m'en remets à vous.
Bon, je propose qu'on
bah, allez-y, hein, continuez.
On va la poser un peu les deux entre deux. Ça.
Oui.
Et à Francesca, tu voilà. Pour la question
d'après. Il n'y a pas de souci.
Ok, donc je continue avec Tony. Alors, Tony, la première petite question, mais alors qui est très factuelle. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Vous avez amené beaucoup d'éléments factuels intéressants. J'ai une toute petite première question qui est hyper factuelle parce que je crois que j'ai mal compris votre préambule. Vous avez fait remarquer que votre domaine d'étude pour cette présentation était 1858-64, mais sur votre PowerPoint, c'était bien 1859-1926. Donc,
non,
je ne...
la rectification que j'ai eu à faire, c'était par rapport à ce que je pense que c'est Sarah qui, au début, a dit que mon domaine d'étude portait sur la période 1959 et 1926. 1926. Et non, ce qui n'est pas le cas. Pour ma thèse, le domaine d'études va de 1858 à 1864.
D'accord, donc vous parliez de votre thèse, vous ne parliez
la thèse,
pas
oui.
De votre thèse parce que je ne comprenais pas. D'accord. Oui, pour la thèse, je suis un peu au courant, en fait. Je crois qu'on en a déjà un peu parlé. OK.
Merci.
Donc, alors, ensuite, j'avais surtout, en fait, la question vraiment que je voudrais vous poser concerne la seconde partie de votre présentation où vous avez évoqué la Society for Promoting the Employment of Women en tant qu'instrument de pouvoir. Dans cette deuxième partie, vous avez évoqué des désaccords entre membres, en fait, de cet organisme, l'opposition de certaines contributrices. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui n'était pas d'accord et pourquoi? Enfin, quel désaccord? Quelle contributrice? Pourquoi? S'il vous plaît.
Bien sûr. En ce qui concerne le désaccord, c'est dans les archives, j'ai pris la peine de le mentionner, en fait, certaines contributrices n'étaient pas favorables au choix de la responsable du comité économique, donc de la Society for Promoting the Employment of Women. Elle n'était pas, mais en fait, que ce soit dans qu'il s'agisse du magazine lui-même ou encore des archives que j'ai en ma possession, il n'est nullement mentionné le nom de façon nominative, hein, il n'est nullement mentionné les personnes qui s'y opposent, mais il est précisé en fait que certaines n'étaient pas favorables à ce choix.
D'accord, mais alors du coup, ça laisserait entendre qu'à l'intérieur de cette structure, il y a quand même des dissensions. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le nom des collaboratrices qui ne sont pas d'accord, le fait qu'elles expriment leur désaccord semble montrer quand même certaines dissensions au sein de
ce... Oui.
Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, que vous avez déjà repéré ailleurs?
Oui, effectivement, il y a des dissensions, non seulement dans ce réseau-là économique, mais même dans d'autres réseaux, il y a des dissensions. Pour le cas de ce réseau, en fait, le désaccord s'articule sur le choix de la responsable de ce comité. Mais il existe de nombreuses autres tensions dans l'organisation, dans la vie même des réseaux de ce périodique. Il existe.
Et pourquoi? Pourquoi? Quelle tension et pourquoi? Enfin, comment? Oui, est-ce que vous en savez plus sur parce que ça, c'est intéressant. Ça, si vous voulez, en fait, parce que ce que vous avez dit dans l'ensemble qu'effectivement, il y a une action qui est menée par la Society for Promoting the Employment of Women to promote the employment of women. Donc, en fait, vous avez présenté, si vous voulez, quelque chose qui semble être assez homogène.
Oui.
Or, dans cette partie, vous faites ressortir quelque chose qui l'est moins. Il semble y avoir moins d'homogénéité. Donc ça, c'est très intéressant parce que là, on va passer un petit peu, on va un petit peu passer au-delà d'une sorte de, pas forcément d'apparence, pas forcément que de l'apparence, mais en tout cas un premier regard sur cette société. Et on repère, vous avez repéré des tensions. Donc là, si vous n'avez pas encore eu le temps de travailler, d'explorer davantage ces tensions, il faut le faire, il me semble.
Absolument, oui.
Qu'en pensez-vous?
Oui, mais c'est une belle, une bonne observation et c'est une piste à explorer. Mais en ce qui concerne d'autres tensions, d'autres dissensions ces réseaux. Nous avons par exemple le désaccord sur lors d'une réunion en fait, où lors du programme affirme publiquement que les fondatrices de ce réseau économique étaient Besseux Van Parse, qui est d'ailleurs la fondatrice du groupe de Langham Place. Et lors de cette rencontre, en fait, nous avons Jessie Boucherette, donc la principale fondatrice de ce réseau, qui va manifester un désaccord par rapport à cette affirmation. Donc, il y a des désaccords sur le choix. Nous avons un désaccord, premièrement, sur le choix de la fondatrice de ce réseau, de la responsable. Ensuite, dans la vie même de ce réseau, nous avons également d'autres dissensions qui vont arriver sur qui a fondé, qui ne l'a pas fait, qui l'a fondé. Donc, c'est cette dissension arrive. Mais comme vous l'avez suggéré, c'est une question que je vais vraiment approfondir dans.
Il faut absolument l'approfondir pour votre thèse parce que ce que vous avez l'air de là de mettre à jour, c'est le fait qu'il existe en fait une tension entre Bushrat et Rainer Parks. Et
Exact.
j'ai l'impression effectivement qu'il existe une tension. Et ça, c'est intéressant parce que là, on va par-delà la question effectivement d'une action qui serait unitaire en faveur de l'emploi des femmes et qui laisserait ressortir des tensions, peut-être en rapport, puisque vous avez aussi mentionné Brougham, peut-être en rapport avec l'action masculine. Enfin, je pense que là, c'est quelque chose qui sera exploré. En tout cas, je pense qu'il faut le faire, Tony. Et sinon, j'ai une deuxième question sur, est-ce que c'est vous qui avez traduit les passages que vous avez cités, parce qu'à un moment, vous avez traduit, nous en avons marre de quelque chose. C'est vous ça?
À partir de la présentation de Francesca, j'ai réalisé en fait que je n'aurais pas dû traduire. En fait, la traduction provient de moi. Et
Au niveau, enfin, sur le niveau de langue, c'est pas nous en avons
bien.
marre, nous en avons assez, nous sommes lassés de, mais pas nous en avons marre. Hein, vous voyez? Pas hashtag ras-le-bol. Vous voyez, c'est en fait, elles s'expriment, elles ne peuvent pas s'exprimer comme ça dans ce contexte-là au 19e siècle. Voilà, bah, écoutez, moi j'ai fini les questions pour à la fois Francesca et Tony, donc je laisse la parole à d'autres personnes. Je suis désolée d'avoir un peu monopolisé.
Merci pour vos questions. Donc, maintenant, on a des...
On a à nouveau plus de son.
Est-ce que là, ça va mieux?
Oui,
Oui.
merci.
Bonsoir. Je suis vraiment
Quelqu'un, si
un
tu peux.
petit retard parce que je j'ai raté le commencement de l'intervention de Francesca. Et donc, je vais essayer juste de poser une question par rapport à ce que j'ai lu. Ça concerne surtout la dernière partie, là où vous explorez un petit peu la définition du scandale. Et là, je trouvais ça très, très intéressant de revenir sur l'étymologie du mot. Et les différents sens donnés au mot scandale. Et moi, je me pose la question, je vous pose la question, certainement vous aurez des explications, enfin, vous aurez un avis à avancer pour répondre à mes questions. Donc, je me dis, n'est-il pas inhérent au scandale, n'est-il pas porté ce scandale à son paroxysme? Seulement s'il implique des noms de personnes notables de la société. Le scandale est-il du fait qu'il y ait des personnes notables bien de la société comme le scandale là, qui va suivre, c'est ça?
Oui.
Oui. Donc, ou bien il y a scandale, mais... Il y en a ceux qui naissent d'un autre fait de société que celui en fait, d'avoir des personnes reconnues dans la société qui y sont impliquées.
Si, tout à fait, tout à fait. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles la première procédure judiciaire, donc celle qui concerne le propriétaire de la maison close, George,
Normalement, c'est revenu.
Donc oui, c'est un scandale parce que ce sont des, il y a des aristocrates qui sont impliqués dans l'affaire. Et ça rejoint ce que Max Bluckmann disait sur sa troisième fonction du scandale. Comment le scandale et les commérages permettent de définir qui est ou non, qui sont ou non nos dirigeants. On ne peut pas avoir comme dirigeant, un groupe social ne peut pas être dirigé par des personnes qui sont dans le déshonneur, finalement, dans l'immoralité.
D'accord. Est-ce que tout scandale, en fait, est-ce qu'on peut généraliser cela sur tout scandale de l'histoire, par exemple, parce que vous avez évoqué des définitions, et je me dis qu'en fait, si on arrive à définir en fait, un scandale par rapport à ça, enfin, est-ce que c'est possible que le scandale, en fait, c'est inhérent au scandale ou pas? C'est ça ma question.
Je ne suis pas sûre. Après, je n'ai pas étudié tous les scandales. Voilà.
C'est pas vraiment la définition.
Oui. En fait, j'ai en tête une autre affaire qui s'est déroulée en 1870 et donc qui s'appelle The Stella and Fanny Case, où en fait, deux hommes ont été arrêtés pour s'être travestis, pour avoir porté pardon, des vêtements de femmes. Et je ne suis pas sûre que ces personnes-là étaient connues avant. Peut-être qu'un membre de l'aristocratie était impliqué, je ne sais pas. Mais là, peut-être que effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle, je ne sais pas. Mais oui, c'est une réflexion, une question intéressante qu'il faudrait peut-être que je développe.
Merci beaucoup. J'ai une question pour
Tony,
mais je
ne
sais pas
encore. Si, Franck, vas-y.
D'accord. Donc, Tony, je vous remercie pour votre présentation. Là, j'ai eu l'honneur de la suivre entièrement. Et donc, ma question, en fait, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'essaie de poser une question par rapport à ce qui a été développé, puisque ça m'intéresse en fait la question de l'égalité hommes et femmes. Donc, je me dis, est-ce que le SPIW a-t-elle proclamé seulement une sorte d'intégration dans l'activité des femmes, ou bien en fait ces proclamations, bien, elle a proclamé beaucoup plus une certaine égalité hommes et femmes, parce que vous êtes centré en fait dans ce, j'ai l'impression en fait dans votre présentation surtout ce qui a été mis en place afin d'intégrer les femmes dans le domaine du travail, alors que vous n'avez pas abordé en fait l'égalité avec les hommes. En fait, ça a été développé à la fin dans la conclusion, mais il n'y avait pas tellement de points qui expliquaient en quelque sorte comment proclamer cette organisation de l'égalité avec les hommes. Donc, on va savoir si vous avez des idées par rapport à cette idée de l'égalité femmes et hommes, comment on la mettait en œuvre, à part le fait d'intégrer la femme dans le travail, dans le domaine du travail.
Merci pour la question. Il faudra préciser que cette structure, donc la SPIW, se chargeait uniquement de toutes les questions en rapport avec l'emploi et la formation, premièrement de ces femmes. Et sur la question de l'égalité homme-femme, il faudra préciser qu'en fait, à l'époque victorienne, les femmes et les hommes n'avaient pas du tout les mêmes droits. Et nous sommes dans une société une société qui est généralement traditionnaliste, avec des valeurs plutôt Tories, conservatrices, qui reléguaient les femmes au second plan. Et justement, cette structure, qui est une structure de magazine, en fait, qui est, on va dire, une branche de l'English Women's Journal, avec pour mission, pour vocation, justement, de façon pratique, de façon concrète, donner aux femmes la possibilité d'obtenir certains droits. enfin, donner à la femme la possibilité d'avoir un certain pouvoir par l'emploi, de financer les formations des femmes, de leur donner la possibilité de travailler dans les secteurs qui étaient jusqu'ici réservés exclusivement aux hommes. Donc, en fait, en donnant le travail aux femmes, en octroyant les possibilités d'emploi, en fait, cette structure, ce réseau avait pour mission d'essayer de donner aux femmes, on va dire, les mêmes possibilités que les hommes avaient. Cette structure avait pour vocation de rétablir, du moins de ne pas, ne pas, pas, n'avait pas pour vocation de renverser les hommes, mais pour donner aux femmes les mêmes opportunités, les mêmes privilèges que les hommes avaient.
Okay, merci. Merci beaucoup pour le temps et leurs interventions étaient très intéressantes. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci Faïka. Allez-y, je vous en prie.
Bonjour, donc, je vous remercie beaucoup tous les deux pour vos interventions, c'est très très intéressant et j'ai donc une question pour chacun de vous. Donc, concernant Francesca, d'abord, vous disiez que ce journal que vous avez décrit nous montre une histoire qui fait vendre, celle de ce scandale, donc une histoire un peu donc sensationnaliste, mais comment vous expliqueriez ce goût de la population londonienne pour ce qui les dégoûte finalement, parce que je pense que c'est peut-être le mot qu'on peut utiliser pour ce cas-là de l'homosexualité. Pourquoi ils sont tant fascinés par cette histoire qui est si loin de leurs mœurs en fait?
Alors, je dirais, je ne suis pas sûre qu'elle soit si loin de leurs mœurs que ça. En fait, je pense que tout simplement, ici, on montre quelque chose qui existe, tout ça, qui existe déjà. Et oui, effectivement, il y a une fascination-répulsion qui s'opère. Je crois que c'est Foucault qui parlait du discours qui crée désir. Bah, là, on est là-dedans, en fait. Je ne sais pas si je peux l'expliquer vraiment, mais. Mais en tout cas, l'homosexualité, elle répulse, mais c'est une répulsion, je pense que c'est une répulsion de façade et qu'en fait, il existe beaucoup, beaucoup de sexe, il existait déjà beaucoup de sexualité à la fin du 19e siècle à Londres et ailleurs aussi en Grande-Bretagne.
D'accord, merci beaucoup. Et pour Tony, du coup, je me posais la question, donc là, je ne sais pas, je pense qu'on sort un peu de votre sujet, mais je me posais la question par rapport à Jessie Bushrett et donc à la Society for Promoting the Employment of Women. Est-ce que cette société et par extension Jessie Bushrett s'inscrivait peut-être aussi dans le mouvement, pas suffragette, parce que je pense que là, on est peut-être un peu trop tôt, mais suffragiste, est-ce que c'est... Jessie Bushrett et cette société-là étaient en lien quelconque avec les mouvements suffragistes ou pas du tout?
Cette structure n'était pas en lien avec les suffragettes, parce que les suffragettes arrivent au début du XXe siècle avec Pankhurst. Mais ici, en fait, cette structure s'inscrit plutôt dans le suffragisme. Mais en se limitant exclusivement à la question de l'économie, donc des finances, de l'autonomie financière des femmes. Et Jessie Boucherette, non plus la structure, mais Jessie Boucherette s'inscrit également, parce que c'est un point peut-être que je n'ai pas précisé, parce que pour les besoins de cette présentation, mais en fait, Jessie Boucherette, qui était en même temps la fondatrice de ce réseau, a également participé activement dans la quête du suffrage, du vote des femmes. Et cette fois-ci, elle a participé à un autre réseau qu'on appelle, qui va cette fois-ci être le réseau politique de ce magazine. Elle va participer, elle va en même temps que John Stuart Mill, Papa Harriet, Ellen Taylor, elle va participer dans le mouvement suffragiste en réclamant les droits des femmes. Donc, en plus de son activité dans le réseau économique de ce magazine, elle va participer à la question même du suffrage, à la question du suffrage, du droit des femmes, l'égalité au niveau de la représentativité des femmes dans les institutions politiques. Donc, elle va jouer ce rôle-là, mais la structure elle-même, donc la structure économique, elle ne participe pas à la question des suffragettes ou encore au suffragisme sur le plan politique. Elle ne participe qu'à la question économique de ce magazine.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Merci pour vos questions. Marine, alors je t'en prie.
Merci Tony et Francesca pour vos présentations qui sont très très intéressantes. Je suis désolée, j'ai une question que pour Francesca du coup. Alors, tu mentionnais le fait que c'était les seules représentations dans une presse illustrée du scandale. Et alors, c'est pas vraiment si c'est une question. À quel niveau est-ce que ce scandale a été représenté? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été représenté dans d'autres journaux illustrés et dans la presse non illustrée? Est-ce que c'était un scandale qui était très présent ou est-ce qu'au final ça a été le cas de ça a été représenté dans quelques journaux
Dans mon corpus comprend 8 publications, 8 journaux et pour un total je crois de 165 articles. Donc c'est un scandale dont on parle. On commence à en parler à l'automne 89 et on arrête subitement d'en parler à l'été 90 pour l'oublier en fait. Si, c'est quand même un scandale qui a été couvert médiatiquement. Mais effectivement, oui, je n'ai pas trouvé d'autres journaux illustrés qui ont couvert ce scandale, hormis le Illustrated Police News. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles... c'est le cas, c'est que l'Illustrated Police News, déjà, ça ne s'intéresse qu'à des faits divers et que le sujet du scandale, le sujet de cette affaire de meurtre-là était peut-être pas assez noble pour d'autres journaux illustrés. Je pense au Illustrated London News qui, lui, était plutôt, qui s'adressait plutôt à un lectorat de classe moyenne. Voilà, donc c'était, je pense qu'il y avait une question de... Le sujet est trop bas, pas assez noble pour être traité dans d'autres journaux illustrés.
Merci. Julie.
Merci. Moi, j'ai une autre question pour Francesca qui va un peu avec celle de Marine. C'est en termes de liberté. De la presse, qu'on en est exactement et pourquoi justement on s'arrête finalement d'en parler brutalement un an après son début, si j'ai bien compris.
Oui. Oui, même pas. Justement, c'est là que c'est un peu délicat parce que on considère que la liberté de la presse est très importante et que les journalistes ont ce devoir moral d'exposer les choses, ce qu'a fait Ernest Park, mais en même temps, en le faisant, il s'est retrouvé accusé et donc emprisonné. Donc il y a une espèce de double mouvement là-dedans où en fait, effectivement, on a envie, on sent que c'est important de parler de ces choses-là dans la presse, on sent que c'est important, mais quand un journaliste le fait, il se retrouve emprisonné. D'ailleurs, il a été coupé de 12 mois d'emprisonnement, donc un an, mais il a été relâché au mois de juillet, donc après 6 mois, puisque des confrères journalistes ont rédigé et signé une pétition à son égard. Ça, c'était plutôt... Comment dire certains journalistes l'ont signé, certains journalistes l'ont rédigé, d'autres l'ont accusé d'avoir fouillé un peu, on l'a accusé un peu de muckraking, voilà, fouillé un peu là où il n'aurait pas dû mettre son nez.
Et justement, si je peux continuer, le Illustrated Police News, est-ce qu'il a été empêché après de continuer certaines publications ou est-ce que, surtout dans la mesure où c'est quand même un journal qui a police dans son titre,
oui.
Mais qui finalement critique quand même le fonctionnement de la police, justement, comme étant à deux vitesses. Est-ce qu'il y a eu.
Il le fait indirectement. Oui, le journal a couvert les procès d'Oscar Wilde en 95. Donc, je ne pense pas qu'il ait été empêché.
Merci, Julie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui.
Est-ce que vous pensez précisément que le procès d'Oscar Wilde aurait été différent s'il n'y avait pas eu cette affaire plusieurs années auparavant, dans la mesure où ça concernait un peu la même thématique? On a l'impression que le scandale est un peu proportionnel à la société, au sein de laquelle il jaillit. On sait bien que l'Angleterre victorienne a été jetée un voile pudique sur tout ce qui était de l'ordre de la sexualité, et en particulier les marges de la sexualité, comme on considérait l'homosexualité à l'époque. Est-ce que vous pensez que le procès d'Oscar Wilde est un peu une conséquence de cette affaire? Est-ce qu'il aurait été différent s'il n'y avait pas eu le scandale de Clifford Street?
Je ne sais pas s'il aurait été différent. Je ne pense pas, finalement. En fait, j'ai l'impression que l'affaire de Cleveland Street a existé, qu'elle a été très vite oubliée. Et ensuite sont venus les procès d'Oscar Wilde, qui eux ont vraiment occupé une grande partie dans les médias de l'époque, la presse, mais également les écrits académiques par la suite. Il y a très peu d'écrits, très peu de monographes ou d'articles sur le scandale de Cleveland Street. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est le procès d'Oscar Wilde qui a un peu couvert, entre guillemets, le scandale de Cleveland Street, qui l'a fait un peu oublier. Je ne suis pas sûre que... Je pense qu'on avait, en 95, on avait peut-être déjà oublié cette affaire-là.
C'était un homme, donc il cristallisait.
Exactement.
En tant que bouc émissaire.
Oui, un homme irlandais en plus. Voilà.
Mais on parlait du vice anglais dans la presse française.
Et bien, en Angleterre, on parlait, je pense, plutôt du vice français. Exactement.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? En ligne, personne aussi.
Oui, en ligne.
Mais le chat en bas.
Non. Je crois que c'était les problèmes de micro en bas.
Non,
oui, c'est ça.
C'est résolu.
Il n'y a pas d'autres questions? J'en ai une pour chaque intervenant, si jamais. Francesca, donc je te remercie, Tony aussi, bien sûr. Francesca, je commence par toi. Je me suis posé la question, alors j'avais regardé rapidement sur Internet un peu l'après du Cleveland Street et du scandale, et je crois qu'il y avait un film qui était prévu, mais je n'ai pas réussi à savoir quelque chose, savoir davantage. Il devait être réalisé par David Andrew Ward, mais il n'y a pas eu de suite. Je voulais voir avec toi si c'était...
Ah, je ne savais pas.
J'ai regardé, j'ai juste trouvé l'affiche, mais il est introuvable.
Mais c'est un film, parce que je sais qu'il y a une comédie musicale.
C'était un film, de ce que j'ai... C'est vrai. Donc il y a une comédie musicale.
Je crois qu'il existe une comédie musicale, mais le film, non.
D'accord.
Je ne savais pas.
Mais il n'y a pas eu de...
Il n'y a pas eu de suite.
Non, je n'ai pas trouvé s'il était sorti ou quoi. Enfin, rien d'accord. Du tout, il n'y a pas de date de sortie. Il y a pas... Ça avait l'air d'être un projet, mais finalement... Je crois que c'est arrêté là finalement. Tony, j'avais une question aussi qui était plus large, c'était en fait par rapport au changement de nom c'est Madame Bailey dit West Side Scandal pour la comédie musicale.
certainement.
Tony, du coup, c'était une question par rapport au changement de nom du SPEW. Il me semble que ça a changé plusieurs fois de nom, si tu me confirmes ça. Et pourquoi ces changements? Et le dernier nom en date, je crois que c'est History of Futures for Women. C'est peut-être bête, mais c'est large, quoi. Et pourquoi ces changements de nom? Qu'est-ce qu'ils ont permis? Est-ce qu'il y a eu des avancées majeures à chaque fois?
Disons que la structure, elle a commencé par la Society for Promoting the Training of Women. Donc, de base, la structure se consacrait uniquement à la formation des femmes. Ensuite, la structure a élargi en fait sa vision. Plutôt que de se concentrer uniquement et exclusivement sur la formation, il fallait également étendre la question sur la proposition d'opportunités professionnelles. Donc, ce qui a amené d'ailleurs au changement du nom, plutôt que de Society for Promoting the Training of Women, la structure est passée à la Society for Promoting the Employment of Women. Et cela englobait finalement à la fois la formation, donc le financement des formations, et l'employabilité, et pour proposer des opportunités. Mais il faut également, je tiens également à préciser que En ce qui concerne cette structure, je ne travaille pas jusqu'à 1926. Hein. Je m'arrête exclusivement à la période dite victorienne. Mais c'est une structure qui va effectivement jusqu'en 1926.
Très bien, merci beaucoup. Peut-être d'autres questions? En ligne, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas.
Je pense qu'on est arrivé au terme des questions, donc au terme de ce séminaire. Donc, on va le clôturer. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté donc, à ce séminaire et d'avoir écouté avec attention donc, nos doctorants Francesca et Tony, que nous remercions encore une fois pour leur captivante présentation. Donc, merci à vous. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous dans 3 semaines, jeudi 16 novembre à 15h, donc dans cette même salle, pour le prochain séminaire doctorant intitulé Fictions of Queen, Queens of Fiction, où nous aurons l'occasion et même le plaisir d'entendre les communications donc, de Marie-Laure Divary ici présente, donc sur Emma de Normandie, une figure peu connue du XIe siècle, mais néanmoins fascinante. Et de moi-même, sur Catherine d'Aragon et Anne Boleyn, les deux premières épouses de Henri VIII. Donc, Sarah, as-tu quelque chose à ajouter?
Non, un grand merci à vous deux, en ligne et en présentiel, et aux personnes évidemment présentes. Un grand merci à vous, et donc rendez-vous dans
Dans 3 semaines,
3 semaines, c'est
le
ça.
16 novembre.
Mais il y aura des affiches et tout sera prêt. On vous enverra l'information aussi par mail et on fera une belle affiche. Merci
Voilà,
beaucoup
donc
en tout cas.
excellente journée à tous, et on vous souhaite aussi de bonnes vacances.